Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio. C'est Julie Chaise-Martin et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un cinéaste discret qui n'a jamais été sous le feu des projecteurs, mais qui côtoie assidûment depuis plusieurs années la grande famille du théâtre et du cinéma. Acteur, notamment auprès de Bertrand Bonello, scénariste sur les films de son fidèle ami Mathieu Amalric, monteur, réalisateur, Marcelo Telles, le Brésilien, est devenu ce Français de l'exil arrivé à Paris en 1980. C'est le rêve du cinéma en tête. Il se fait happer par la vie parisienne et c'est cet itinéraire d'un jeune homme ordinaire, rêveur et assoiffé de connaissances que raconte son long métrage, sobrement intitulé « L'exilé » et qui sera projeté au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris à partir de ce mercredi 12 décembre dans le cycle « Découverte du cinéma ». Bonjour Marcelo Telles.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici donc sur Art District. Alors on va parler de votre film qui s'appelle donc L'Exilé. L'Exilé, on peut dire que c'est le film d'une vie, justement de votre vie. Et c'est un film qui nous transporte un peu en arrière au cours des années 80-90. Vous racontez donc votre vie à Paris, la caméra vous filme, on vous suit intimement en fait dans les moments du quotidien d'ailleurs. Hein, c'est comme un journal intime, on pourrait dire. Et vous avez mis longtemps à faire ce film. Pourquoi plusieurs années pour construire ce film ?
Bah, au départ, c'était voulu. Au départ, c'est un pari que j'ai fait avec Mathieu Amalric, qui déjà commençait à tourner en pellicule. Et moi, je tournais déjà en vidéo pour une question de rapidité, travailler vite. Et puis parce que je viens du théâtre d'improvisation aussi, je pense que c'est étroitement lié. Et le pari était de faire un film dans la longueur, comme ça. Au départ, on avait pensé 10 ans et en fait, ça a débordé un peu. Parce que je ne trouvais pas de fin. Dans les années 80, c'était très à la mode faire des films qui étaient des autoportraits, dont Mika le Diario de Nanni Moretti, qui avait fait un succès incroyable à l'époque. On était en plein dans ce moment-là. Alain Cavalier commençait aussi. Il y avait Robert Kramer, qui était à Paris, que j'ai connu à l'époque, qui faisait des films en partant des choses de la vie, enfin des portraits, quoi. Et j'ai voulu en faire un, mais étalé dans le temps et aussi en essayant de donner une belle part aux autres aussi et pas faire le truc complètement ombriliste comme c'était un peu le cas. C'était un peu à la mode de parler de soi et de ses problèmes intimes.
Donc c'est le portrait aussi d'une génération, des amis que vous avez côtoyés assez rapidement à Paris.
Absolument, absolument. Oui, des gens qui étaient les plus proches. Et je suis parti des thèmes que je voulais traiter, entre autres le thème le plus important du film, c'est la paternité.
Mmh. Oui, alors on entre dans le film avec une lettre très personnelle qui parle justement de la paternité. Ça fait tout de suite entrer le spectateur dans votre intimité, donc ça c'est vraiment un choix très intéressant de ce film, on est tout de suite dans votre vie en fait.
Ah oui, 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 ça c'était le principe aussi.
Le fait d'oublier la caméra aussi.
Voilà, l'idée était de faire en sorte que les gens soient très proches et que ça reste quand même pudique, parce que voilà, c'est l'intimité de chacun. Alors je partais des choses qui nous étaient vraiment arrivées, je réécrivais la situation et les amis venaient jouer. Et après, on fonctionnait comme au cinéma, on trouvait le bistrot où tourner, l'appartement de chez où on allait tourner, etc. Mais c'était organisé, chaque scène était tournée comme au cinéma.
Alors là, le long métrage, il fait 1h30 à peu près. Et j'imagine que vous avez eu énormément d'heures de tournée. Comment vous avez ensuite fait un choix ?
Bah justement, je n'avais pas beaucoup d'heures. Je n'avais que 35 heures, ce qui est très très peu. Pour que vous ayez une idée, aujourd'hui pour la télé, pour faire un 13 minutes, un 26 minutes à la télé, les mecs, ils tournent 60 heures, 70 heures, 200 heures, enfin c'est n'importe quoi. Parce que c'est le numérique, on filme tout et n'importe quoi. Et puis après, on met des stagiaires pas payés à dérocher tout ça. Moi, non, je fonctionnais comme si c'était du cinéma. Mmh. C'est-à-dire comme si c'était des pellicules. Je poussais le bouchon aussi loin, à tel point que mes rushs, je ne les ai pas regardées pendant 10 ans. Parce que je n'avais pas le moyen de monter le film. Et donc, j'ai vraiment fait comme si... comme si c'était de la pellicule, quoi. Le jour où j'aurai l'argent pour développer la pellicule, je regarderai les roches. Et après, la monteuse a quand même demandé d'autres images qui n'étaient pas prévues pour le film et a inséré, je dirais, qu'il y a entre 10 et 15% d'images dans le film qui n'étaient pas écrites et prévues pour le film, que c'était des images prises comme ça en famille, quoi.
Alors, ce film a déjà été présenté, je crois, au FID à Marseille et à d'autres festivals. Pourquoi c'est important aujourd'hui ce cycle au cinéma Saint-André-des-Arts ? Qu'est-ce que ça va apporter en plus ?
Un film, c'est une œuvre, c'est un objet. Hein. Ce n'est pas comme la musique qui peut passer en boucle sur un film. C'est un objet, les gens doivent se déplacer. Déjà, le fait que le public se déplace et vienne dans une salle de cinéma... pour quelqu'un qui a réalisé un film, c'est super. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand même Saint-André-des-Arts, c'est un peu le temple de cinéma d'art et d'essai de Paris. Ça a été créé en 73. Moi, je suis arrivé en 81, j'habitais 7 ans à Odéon. Le Saint-André, c'est à Saint-Michel. Moi, j'étais fourré 5 fois par jour, par semaine, avec mon ami Olivier Broche, qui est dans le film, qui est un cinéphile, qui m'a initié à la cinéphilie, on va dire. On était fourré à la cinémathèque et aux salles d'art et d'essai. Donc, c'est une continuation. C'est très important. Même les festivals sont importants pour essayer de vendre un film. Mais c'est un film un peu difficile à vendre quand même, parce que c'est très personnel. Et donc, pouvoir sortir quand même dans une salle de Paris, c'est extraordinaire.
Alors, vous avez parlé de Mathieu Amalric, de Olivier Broche. On voit effectivement ces amis-là, qui sont toujours vos amis aujourd'hui dans ce film, L'Exilé. On va peut-être écouter justement un petit extrait tout de suite avec une amie qui s'appelle Isabelle Ungaro. Et donc, vous parlez avec elle dans cet extrait. Et elle recherche, elle veut se marier avec un Géorgien. Et donc, on écoute tout de suite cet extrait et puis on le commente juste après.
Je pensais que j'allais en Géorgie me marier avec le Géorgien. Puis en réalité, il ne m'a pas du tout invité en Géorgie. Je ne me suis pas mariée avec le Géorgien. Et je n'aurais pas d'enfant géorgien, ni un mariage géorgien avec des chants.
Oui, mais tu m'as déjà dit que c'était un choix de vie, que tu t'en foutais.
Non, mais c'est pas. Non, mais moi, j'ai jamais choisi. Attends, chose au point, j'ai jamais choisi d'être seule, de ne pas me marier et de regarder les autres.
Mais t'es contente, t'es pas malheureuse. Enfin, t'as pas des gosses parce que tu veux pas.
Donc, pas du tout. C'est ton interprétation pour pas être tout seul dans ce cas-là. Attends, t'es gentil, toi. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas me marier, pas avoir d'enfant. Je veux me marier avec un Géorgien et faire une grande fête géorgienne. Enfin, de toute façon, c'est cuit.
On vient d'écouter un extrait du film L'Exilé de Marcelo Telles. Alors Marcelo, on a parlé de ce groupe d'amis que vous filmez dans ce film. Et là, vous mettez en scène Isabelle Ungaro. Un petit mot sur cet extrait.
Isabelle Ungaro, c'est une très 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 bonne copine, très bonne amie. C'est un peu comme ma sœur. On s'est connus à la fac en 83. Et en fait, la particularité de cet extrait, c'est qu'on avait passé toute une soirée avec énormément de monde, enfin on était une dizaine dans un repas organisé pour qu'elle nous raconte ses histoires d'amour avec son prince géorgien, quelqu'un de qui elle était apparemment assez amoureuse à l'époque, et ça marchait, ça marchait pas. Mais et en tout cas, la scène n'a pas du tout marché. C'était impossible parce que tout le monde avait pu coller trop peut-être, et finalement tout le monde se mettait à parler, j'arrivais pas à contrôler la situation. Et donc, à la fin du repas, j'ai dit à Isabelle, écoute, on va tout recommencer, on va faire ça en plan séquence dans la cuisine. Et c'est vraiment à chaud comme ça. Et là, on est parti dans la cuisine, un copain a pris la caméra qui était sur pied, elle est venue, et voilà. Ça s'est passé comme ça, cette scène.
Alors, plusieurs sentiments traversent ce film. Hein. Vous parlez, il y a les sentiments, il y a vos sentiments, il y a le sentiment de vos amis également, comme on vient de le voir. Et il y a aussi la nostalgie du pays natal, qui est le Brésil. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, justement, puisque le film s'appelle quand même L'Exilé, c'est vous, comment vous êtes venu en France, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous deviez venir juste pour 3 mois, et puis finalement, vous êtes resté beaucoup plus longtemps.
Exact, oui. Oui, j'étais venu pour 3 mois, voire 6 mois, le temps de parcourir un peu de connaître un peu l'Europe. Et finalement, une fois à Paris, j'ai décidé de rester. Enfin, je me suis dit, je vais rester une petite année, histoire d'apprendre la langue, Et puis après, voilà, au bout d'un an, je parlais déjà suffisamment pour me faire comprendre. J'ai aussi à m'inscrire en fac, en disant je vais améliorer un peu tout ça. Et puis en fac, j'ai rencontré Olivier Broche dès 1982, parce que je suis arrivé en 81. Et dès 82, j'ai rencontré Olivier Broche. D'ailleurs, je me souviens, c'était à la cafette de la fac de Paris 3. Je le vois, c'était Paris 8, je crois. Je le vois de profil. Il a un profil quand même assez particulier. Je m'approche, je dis, vous ne voulez pas faire du théâtre par hasard? Et il a dit, ah, c'est marrant que vous me demandiez ça, parce que vous me demandiez ça, parce que ça fait 2 semaines que je me suis inscrit au cours de théâtre de la fac. Et moi, j'avais ma compagnie de théâtre amateur au Brésil, qui travaillait avec la méthode d'Auguste Boer, le théâtre de l'opprimé. Donc, à partir des... Encore là, une fois, à partir des choses de la vie réelle, et puis des improvisations qu'on... préparé. Et donc, avec Olivier, on a créé une compagnie de théâtre. On a cherché d'autres personnes intéressées dans la fac et on a créé une compagnie de théâtre qui a duré 3 ans et demi, 4 ans.
Alors, ce qui ressort quand même de ce film, c'est aussi un fort sentiment de mélancolie et de solitude. C'est-à-dire que vous arrivez en France, mais à un moment, vous dites « l'Europe ne sait pas quoi faire de moi ». Donc, même si vous arrivez à intégrer ce groupe d'amis, à avoir ce rêve en fait, de faire du cinéma, de commencer à faire un peu de théâtre, etc., il y a toujours quand même un sentiment assez fort de solitude. Est-ce que vous vous sentez finalement vraiment à votre place? Et donc je vais vous poser un peu deux questions en une, mais à votre avis, quelle résonance peut avoir votre film auprès du public actuel, alors que la question justement des migrants est très prégnante aujourd'hui?
Je pense que ça c'est éternel. J'espère que la question est éternelle, parce que c'est intéressant quand on fait n'importe quelle œuvre d'art, que ça puisse toucher, correspondre à la réalité de maximum de gens de différents horizons. Je pense que ça parlera encore aussi aux immigrés d'aujourd'hui. Moi, j'ai appelé le film effectivement « L'exilé » parce que je ne suis pas un immigré. C'est différent. Je ne suis pas venu en France pour gagner ma vie. Je n'ai pas fui un pays en guerre. Donc, ils ont une réalité qui est beaucoup plus dure que la mienne. Moi, j'étais simplement pauvre. Je n'avais pas le moyen d'être là. Je vivais chichement, mais en faisant des petits travaux. Mais enfin, c'était un choix. C'est complètement différent. Alors, par contre, on a des problèmes à régler. C'est culturel. Je voulais absolument devenir français. Je n'avais pas le problème, justement, d'avoir la peau mate, trop mate, ou d'être un noir, pour être clair. Moi, je passais inaperçu, en quelque sorte. Mais bon, j'ai mon accent, que j'aurai toute ma vie. Et puis, je ne serai jamais vraiment un français. C'est un petit peu des règlements de compte, quand même, dans le film. Que de dire, la jeunesse de là-bas à la pêche, ici, les gens, ils ne pensent qu'à leur nombril, en résumant un passage.
Oui, vous
film.
Avez un regard assez précis et un peu dur, quand même, où vous parlez de ce bourgeois jeune parisien arrogant un peu.
Il faut dire que je suis tombé comme Obélix dans la marmite. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai une chambre de bonne dans le quartier latin. Olivier Broche, son père était banquier. Mathieu Amalric, qui n'était pas connu encore comme Mathieu Amalric, a des parents journalistes et critiques littéraires. L'autre, c'était la FINAC. L'autre, je ne sais quoi. Angaro, c'est quand même le couturier. Et donc, et moi, mon père était forgeron. Donc, j'avais en plus ce chemin-là à faire. J'ai grandi dans une maison sans livres. Je lisais des choses au Brésil, mais c'était un effort alors que tous mes amis avaient des bibliothèques énormes chez eux. Olivier m'a passé énormément de choses à lire. Donc c'est une espèce de règlement de compte dans le bon sens. Une recherche d'équilibre peut-être plutôt.
Et une recherche de la femme aussi, beaucoup, dans ce film.
Ouais. c'est une autre histoire. C'est qu'au départ, alors les gens ont du mal à croire, mais au départ, au Brésil, j'avais vachement du mal avec les femmes, parce que je me sentais trop maigre, trop con, trop bête, enfin bref.
Vous êtes timide, hein, vous n'arrivez pas trop...
Voilà, oui. À l'époque...
Vous avez besoin d'un coach, en fait.
Non, je n'ai jamais été vraiment timide, mais j'avais un problème pour aborder les filles. Et en arrivant en France, ça se faisait tout seul, justement, parce que je venais du Brésil, parce que j'avais un accent.
Donc elle venait à vous.
Voilà, c'était plus... Et du coup, je me suis laissé avoir. Je me suis laissé faire, souvent.
Bon, c'est pas mal aussi. En tout cas, on va écouter un deuxième extrait où on entend justement Mathieu Amalric et vous parler d'une femme. On écoute.
Putain, elle vient ta copine ou pas? Ben non, non, finalement, elle vient pas parce que... Enfin, c'est pas ma copine. Mais bref, ça va. Non, elle vient pas parce qu'elle avait un dîner de son côté ce soir. Et toi, t'es pas au dîner? Ben non, parce qu'on avait prévu de faire la fête pour Jacques. Avec un bon dos. Je la verrai après. Tu veux...
Mais ça s'est bien passé ou pas?
Ouais, oui, ça s'est bien passé, quoi. On s'est vu... Pas vraiment. Discuter, me poser plein de questions sur ma vie, sur
On a du coup l'impression que vous êtes complètement seul, Marcelo. La femme est une sorte de fantasme et de mythe et qu'elle n'est pas réelle, en fait.
Bah donc, c'est réussi, parce que c'est ça que je voulais. Je voulais que ça soit un peu fantasmé. Par exemple, il y a la scène où Isabelle Ongaro, justement, est chez moi, Mathieu est là pour qu'on travaille un texte ensemble, et puis elle touche comme ça, il y a des barrettes de femmes sur la table basse, enfin, toujours des traces, mais jamais les femmes.
Donc c'est ça, suggéré. C'est...
Voilà. Il s'agissait d'une fête que j'ai organisée parce que c'était comme ça que ça se passait. J'ai toujours été celui qui cuisine, qui reçoit les copains. Et donc, il y a notre ami Georges de Genevray, qui est dans le film aussi, qui est un des autres amis, qui est chef opérateur aujourd'hui, qui l'était déjà à l'époque, et qui rentrait du Brésil. Donc, ça faisait un lien intéressant. La citation était celle-là. Et alors, il y a un autre élément de scénario qui a été décidé par moi dès le départ, c'est que je ne voulais pas filmer les femmes avec qui je sortais. Parce qu'effectivement, tous mes copains vivaient à peu près maritalement et moi, je changeais souvent de fille. Et je me suis dit, je ne veux pas que ce soit le portrait du Sud-Américain qui séduit, etc. Et cet extrait, donc, avec Mathieu, c'est pareil. À un moment donné, on fait taire tout le monde. Il y avait 50 personnes dans le salon. Et c'est Isabelle qui prend la caméra. Si vous re-regardez le film, vous pouvez la reconnaître, son reflet dans la vitre. Et c'est Isabelle qui filme. Et voilà, l'idée, c'était pour une histoire de scénario, encore une fois, pour raconter un peu plus cette envie de ne pas filmer les femmes. Et donc, l'improvisation était autour de pourquoi elle n'est pas venue, tu l'as vue, etc. Bon, c'était ça le principe.
Et là, il y avait des influences, des inspirations de réalisateurs, peut-être, de films que vous aviez déjà vus, pour créer cette sorte d'autofiction, enfin, de cinéma un peu naturaliste.
Si, pour moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma. D'ailleurs, c'est dit dans le film, c'est comme ça que j'ai rencontré Mathieu Amalric au concours de l'IDEC. À l'époque, jusqu'en 85, ça s'appelait l'IDEC. Après, c'est devenu la FEMIS. Et on est devenus très copains. On a commencé à faire des Super 8, des films en Super 8 tout de suite après. Mais aucun des deux, on a fait des écoles. Par contre, je suivais les conférences des Jean Rouge à la Cinémathèque française, à Chaillot à l'époque, dans les années 80-90. Et c'est grâce à Jean Rouge que j'ai eu le courage de commencer à monter mes petits films et à les montrer. Parce qu'en plus de longs métrages, j'ai 15 ou 16 autres films plus ou moins lents. Mais je n'osais pas trop le faire parce que j'ai trouvé ça trop proche de moi, trop naturaliste, c'est pas le terme, enfin, réel non plus. Enfin, il y a un truc, c'était joué, mais un peu documentaire, un peu fiction. Et bref, s'il y a une grande référence, en tout cas dans l'envie de faire, c'est Jean Rouche, parce que j'ai vu ses films en Afrique où il faisait improviser les gens comme ça.
Alors, dans le film, on voit que vous parlez cinéma avec Olivier Broche notamment.
Oui, parce qu'Olivier, c'est mon ami le plus cinéphile. Il a une culture de cinéma et de littérature, mais phénoménale. Vraiment, il se connaît vraiment très, très, très bien. Et c'est grâce à Olivier que j'ai eu une vraie éducation de cinéphile. On courait Paris de salle en salle pour aller voir des films. Parfois, il tenait à ce qu'on voit... qu'on voit l'œuvre de quelqu'un dans l'ordre.
Ah oui, du coup, on a vu. C'est vraiment.
Non, c'était un apprentissage. Voilà, oui. Une fois, dans l'université de Tolbiac, il y a eu une projection, des projections un week-end, de 10 films de Godard, dans l'ordre. Et on est allé avec Olivier, on a vu 5 le samedi, 5 le dimanche. et voilà, Olivier, j'adore cette scène avec lui parce que c'est exactement lui. Quoi. Aujourd'hui, là, sur le film, c'est d'époque, donc il regardait tous les films. Je regardais avec lui aussi beaucoup. Il y avait Ciné Club et Cinéma de minuit. Ciné Club le vendredi soir, avec Claude Jean-Philippe, l'homme de cinéma. Après Apostrophe, il y avait le Ciné Club. Et le dimanche, il y avait le Cinéma de minuit avec ce monsieur qui avait une voix très étrange là, pour présenter les films. Et on se faisait tous. On se le faisait tous pendant des années. Et Olivier, en plus, l'enregistrait en VHS et le classait comme on voit dans le film.
Exactement. Alors justement, ça m'amène à tout de suite passer cet extrait où Olivier Broche classe méticuleusement ses films.
Tu les classes comment? Par ordre
de réalisateur.
Mais aussi...
Alors, c'est-à-dire de réalisateur et à l'intérieur de par année. Donc j'ai tout, tu vois, Kerman, Aldrich, Allegri, Allen, Almodovar, Atman, Antonioni, Arnold, Hervé, Bailly, tout ça. Et donc comme à chaque fois il y a un numéro, les cassettes sont dispersées, mais on voit très nettement les numéros, comme ça se retrouve très vite.
Ah. Voilà, derrière. Mais combien de cassettes t'as maintenant? Tu dois avoir des milliers.
Non, j'en ai... Attends, je vais le dire tout de suite, 572 à peu près. Donc à raison de à peu près 2 films par cassette, je me suis toujours à 20 000 films. 20 000 films, c'est-à-dire que oui, à peu près, enfin...
Mais tu mélanges tout, tu comptes tout, documentaire, sur...
Oui, c'est ça, mais enfin des documentaires qui sont des documentaires de cinéastes. Enfin, il y a un travail de cinéma.
Donc on vient d'écouter Olivier Broche vous raconter voilà, qu'il est vraiment passionné de cinéma. Mais vous, votre passion pour le cinéma, donc, elle a évidemment grandi à ses côtés. Mais est-ce que petit, adolescent, plus jeune, au Brésil, vous étiez déjà très porté sur le cinéma et vous aviez déjà le rêve d'être réalisateur?
Oui, en réalité, oui, rien ne vient. Bon, la rencontre avec des gens et les amis, et le fait d'en commencer à en faire, ça nous propulse plus loin. Mais quand j'étais petit, je suis né dans le Minas Gerais, dans l'état du Minas Gerais, dans une toute petite ville, mais il y avait quand même 2 salles de cinéma, ce qui est extraordinaire. Je vous parle là des années, je suis né en 60, donc 60, je suis parti en 69. Il y en allait tous les dimanches quand même. Au cinéma, mais il ne passait que des westerns et des films des gladiateurs, les péplums. Mais j'y allais, on sortait de cinéma et on prenait un bout de bois comme tous les enfants, et on partait dans la colline à se tirer dessus, à jouer au cow-boy. Mais déjà à cette époque-là, j'avais vraiment envie d'être à leur place. Et ça m'agaçait beaucoup aussi le fait de ne pas comprendre ce qu'ils disent, parce que c'était des films sous-titrés. J'avais 6-7 ans, il fallait courir. Enfin, heureusement que le western, c'est pas... c'est pas Eric Rohmer, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de choses à écouter. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais ça m'agaçait déjà. Et je rêvais déjà petit, plus de jouer avec un bout de bois, jouer avec un revolver, de jouer, de faire du cinéma.
C'est drôle que vous parliez d'Eric Rohmer, parce que moi, j'ai vraiment pensé à Eric Rohmer, en fait, quand j'ai vu votre film.
Oui. Le cinéma que je fais, je pense qu'il est forcément français, déjà. Quand on regarde le cinéma brésilien...
Français de cette époque-là.
Oui, en plus, français des années 80, on peut le dire. Oui. Et effectivement, Rohmer, il y a quelque chose de comme ça aussi. C'est simplement filmé, c'est pas des cinémas sophistiqués techniquement. Mais par contre, avec des... Et aussi avec des... Lui, il travaille beaucoup plus. Hein. C'est très écrit, c'est joué vraiment, etc. C'est une autre... Mais effectivement, dans la façon de faire, il y a un peu de Rohmer aussi. Oui.
Alors, le cinéma, c'est une des grandes questions, une des grandes interrogations de ce film. Qu'est-ce que le cinéma? Là, on en parle depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que vous m'avez dit pour la préparation de l'émission, que pour vous, le cinéma, ce n'est pas que le 7e art, mais c'est aussi un langage. Alors justement, Marcelo Telles, votre langage, comment vous le décririez en quelques mots? Votre langage cinématographique? Parce que là, on en a beaucoup parlé, on a développé plusieurs points, mais est-ce que vous auriez un ou deux mots vraiment pour le décrire?
Je pense effectivement, dur comme fer, que le cinéma est avant tout un langage et non pas un art. qu'il y a des œuvres d'art magnifiques hein, dans le cinéma. Et que et dans mon cas, c'est en fait de l'oralité. Il faut savoir que le Brésil est un pays de culture orale plus qu'écrite, contrairement aux Européens. Nous, on a hérité plus des Africains et des Indiens. Moi-même, je suis d'origine indienne. Donc, l'oralité, c'est-à-dire comment filmer le quotidien, comment être au plus proche. C'est pour ça que dans le film, on bafouille comme dans la vie. Je ne voulais surtout pas, justement, comme Homer, où ces personnages, ils prononcent tous bien toutes leurs mots.
Un peu trop, oui.
Un peu trop, parfois. Mais ça crée quand même quelque chose à part, c'est son œuvre, c'est ça. Moi, au contraire, je voulais casser ça et aussi utiliser la vidéo amateur, parce que c'est une caméra H8 que j'utilise pour tout le long du film, à tel point qu'à un moment donné, j'étais cambriolé, on m'avait amené tout mon matériel, j'ai racheté une pour continuer de terminer le film avec la même texture. Et ne pas avoir l'évolution technique apparaître en texture dans le film. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais ce serait plutôt de l'oralité et l'envie de saisir des moments de la vie, oui, des choses qu'on a vraiment vécues. Faire comme si c'était vraiment... vécu, quoi.
Alors, comme si, mais en même temps, vous l'avez vraiment vécu, tout ça.
Oui, mais on rejouait devant la caméra. C'est ça, c'est ça qui a la particularité. Donc,
c'est rejouer sa vie.
Oui, voilà, rejouer sa vie, oui. Ouais.
Et alors, une dernière question, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Une question, justement, sur ce jeune homme de ces années-là, qui est arrivé à Paris. Aujourd'hui, bien des années après, quel regard vous avez sur lui ? Est-ce que vous avez un regard sur vous-même, en fait ? Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme qui est arrivé dans les années 80, alors que maintenant, ça fait 30 ou 40 ans que vous êtes à Paris ?
Ouais, ça fait 37 ans. Je pense que le film m'a permis en fait pour la première fois d'avoir un regard, parce que encore une fois, je ne suis pas trop du genre ambriliste, hein, je ne me regarde même pas à la glace le matin, je suis capable de partir avec les cheveux en pétard parce que je ne suis pas du genre à me regarder trop, et le film m'a permis de regarder, et effectivement du coup c'est devenu un personnage qui effectivement était finalement assez seul, parce que le fait d'avoir plusieurs copines, c'est justement un problème de solitude, mélancolique, parce que ça, je pense que c'est culturel, hein. J'ai aussi du sang portugais, en plus du sang indien. je ne sais pas, oui, ça, moi je le vois maintenant comme un personnage, comme si le film avait créé ce comme si c'était plus moi. C'est très bizarre. Bon, entre-temps, je vieillis, je fais d'autres sortes de films, c'est peut-être ça aussi.
Beaucoup d'autres films, hein, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, parce que là, on s'est focalisé sur l'exilé, mais vous êtes réalisateur, scénariste et comédien aussi. Hein.
Oui. J'aurais bien aimé jouer plus, j'apparais plutôt dans les films des copains, ou sinon, ça, c'est une chose que j'ai fait aussi sur mes autres films, c'est que je joue dans mes propres films, comme ça au moins.
Alors en tout cas, vous êtes le personnage, le rôle principal de l'exilé, donc déjà. De ce fameux film dont on vient de parler pendant au moins 30 minutes. Merci beaucoup Marcelo Telles. Donc on ne va pas en dire trop non plus quand même sur ce film, parce que l'idée c'est quand même d'aller le voir.
Absolument.
Voilà, c'est un beau film à découvrir donc, dans ce cycle découverte du cinéma Saint-André-des-Arts à Paris à partir du 12 décembre. C'est un cycle qui dure jusqu'au 24 décembre. Alors, avec une exception pour le 18 où il n'y a pas de projection, on peut également retrouver deux projections en janvier, le 1er et le 8. Et puis, ce qui est intéressant avec ce cycle découverte, c'est que les projections sont suivies de conférences et que vos amis, donc qui sont dans le film, à savoir notamment Mathieu Amalric, Isabelle Ungaro et Olivier Broche, qui sont un peu les trois amis principaux du film, seront là pour parler aussi de ce film.
Exactement.
Et vous serez là avec eux, j'imagine.
Oui, moi, ça fait partie du contrat. C'est après les projections, il y a une rencontre, 30-40 minutes. En présence, moi je serai à chaque fois, et puis en présence des copains quand ils peuvent.
Alors toutes les informations sont à retrouver sur le site du cinéma Saint-André-des-Arts. Et puis Marcelo Tellez, eh bien, on va se quitter en musique, puisqu'il n'y a pas de bon film sans bonne musique, n'est-ce pas? Et vous avez choisi, pour se quitter, d'écouter un extrait de la bande originale de votre film L'Exilé, qui a donc été composé par Zeca Baleiro, un compositeur brésilien que vous appréciez particulièrement. Alors un petit mot sur cette musique.
Oui, là c'est un peu un cadeau du ciel quand même, hein, d'avoir, parce qu'il a fait toute la musique du film. Il le faisait pendant qu'on montait à Paris, on envoyait des extraits, il composait en fonction. Donc c'est extraordinaire. Ça, c'est grâce à Paula van der Busch, qui est une amie productrice ici, qui le connaissait et qui l'a fait voir, en fait, un montage du film que j'avais fait tout seul, où je n'avais pas utilisé du tout des images de la vie, comme a fait Caroline Détourné, qui a monté le film après. Il a vu ça, il a trouvé ça super beau, et il a fait toute la musique du film, alors que c'est une étoile montante de la musique brésilienne actuellement. Donc je le remercie de tout cœur.
Alors on écoute tout de suite cet extrait donc de Zeca Baleiro. Et encore un grand merci Marcelo Tellez d'être venu nous raconter votre film et puis un peu de vous, puisque c'est un film qui parle de votre vie, L'Exilé. Merci.
Merci à vous. Thank you.